Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Je n'ai pas été un secrétaire général de tout repos, vous me l'avez dit souvent. Merci de m'avoir supporté et soutenu à la fois. Après un tel périple, vous quitter n'est pas facile. L'émotion est bien présente inévitablement. Mais je suis heureux de passer le témoin au moment du début d'un nouvel élan que d'autres sauront amplifier avec un style et des méthodes renouvelées, et c'est bien nécessaire.
1988, 17 ans de secrétariat général s'achèvent dans une émotion contenue mais unanime, une fois n'est pas coutume à la CFDT. Ensuite, c'est la reconversion discrète dans le tourisme social puis l'économie solidaire. Edmond Maire revient à sa vocation première qui était celle d'un formateur, d'un éveilleur de conscience. Le vieux sage auprès duquel il avait travaillé à ses débuts de permanent lui disait d'ailleurs « On n'est pas là pour régner sur une masse de gens qui n'est pas réfléchie ». Entre-temps, dans les années 70-80, il avait fallu jouer le jeu de la personnalisation. Mais jusqu'à un certain point seulement. En 79, Edmond Maire consent à mettre sa photo sur les affiches des élections professionnelles, mais quand on lui demande « Ce serait mieux que tu tiennes ta pipe », là, il trouve qu'on franchit la limite. Comme son syndicat n'était pas un syndicat de beefsteak, mais de société, et qu'il était à la recherche d'un projet, l'autre écueil était de devenir un homme politique comme les autres. Mais Michel Foucault avait parfaitement compris la méthode qu'appliquait Edmond Maire pour dépasser ce risque. « Vous êtes, lui avait-il dit, un homme véridique ». Premier compliment à Edmond Maire, bonjour.
Bonjour.
On peut commencer ensuite par un second compliment à Jean-Michel Helvig. Voilà que vous ressurgissez sur la scène grâce au livre qu'Helvig publie aux éditions du Seuil et où vous vous reconnaissez parfaitement.
Il a fait un travail extraordinaire de précision, mais avec un résultat salué unanimement, je veux dire, y compris ceux et qui n'étaient pas toujours d'accord avec les orientations, mais tout simplement qu'ils avaient vécu de l'intérieur, on dit « ce livre est juste ».
Donc voilà un autre moment de rassemblement pour les cédétistes si habitués à l'écartèlement. Vos débuts, il a une très belle formule, Helvig. Vous êtes né la même année que James Dean, mais ce n'était pas la fureur de vivre en banlieue parisienne, à Épinay-sur-Seine, où vous vous sentiez surtout comme un enfant de la guerre.
Ah oui, ça, je peux dire, oui, il y avait une caserne de soldats allemands tout proche qui défilait. Il y a eu des bombardements, des éclats quand on se promenait, par exemple, au patronage, dans les forêts aux alentours. On avait les éclats de DCA, comme on disait, hein, défense contre avion. J'ai vu, en sortant de chez moi, vraiment, à l'époque, c'était à 50 mètres devant, les femmes tendues. Et la honte, j'en ai gardé un souvenir, je ne peux jamais en parler sans émotion, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, en même temps, la fin de la guerre, alors que rentrait, par exemple, un déporté, on avait déporté. Il y avait donc une pression de la guerre permanente et qui, il faut dire, m'a beaucoup marqué.
Vous êtes aussi un contemporain de la guerre d'Algérie, Edmond Maire. Si on en tire la leçon politique, c'est une immense déception pour les jeunes comme vous, devant l'attitude des partis traditionnels. Et vient cette idée, il va falloir qu'on trace le chemin nous-mêmes, qu'on construise nous-mêmes les ponts.
Il faut dire que l'épisode de Guy Mollet, vraiment, qu'il y avait un effondrement politique, et la politique à gauche, réelle. Et que, ma foi, on s'est chargé, on a fait ce qu'on a pu quand même pour réveiller les notions de socialisme démocratique, par exemple, de planification, d'avoir un horizon qui, quand même, soit autre chose que ce qu'on était en train de vivre.
C'est l'objectif de la CFDT quand elle se construit en 1964, relevant et élargissant la vieille Confédération des travailleurs chrétiens. L'objectif, c'est de construire des ponts et d'imaginer aussi une société pour demain, les partis étant, vous l'avez dit Edmond Maire, insuffisants. C'est une archive de la radio, mais vous allez entendre un de vos anciens.
France Inter, il est 20h, voici Interactualité.
Au micro Jean Lacour. Si les problèmes européens et atlantiques n'étaient pas aussi préoccupants, nous vous dirions d'abord ce soir que tout est consommé à la CFTC, que ce sigle a vécu, que la CFDT a vu le jour, que ce 7 novembre, en tout cas, fera date dans l'histoire du syndicalisme français.
Je ne pense pas que nous puissions restreindre l'action du syndicalisme à son aspect quotidien de l'entreprise ou de l'industrie. Toutes les actions que nous conduisons doivent d'une part, certes, être centrées sur les notions de bien-être, de conditions de travail, de salaire à améliorer. Mais il faut encore avoir conscience que si nous limitons notre action à cet aspect, alors la condition ouvrière, mes camarades, ne sera pas véritablement transformée, car elle se limitera à cet aspect d'un syndicalisme de beefsteak que les uns et les autres vous avez dénoncé à cette tribune.
C'est René Bonetti, grand ancien, qu'on entendait. Cette formule qu'il utilise, René Bonetti, nous ne faisons pas un syndicalisme de beefsteak. Vous allez, vous, la transformer et dire... Nous faisons un syndicalisme de société.
Oui, nous voulions un syndicalisme de projet qui soit mu par un projet qui lie l'action immédiate, parce que pour moi, le syndicalisme, c'est d'abord l'action sur les conditions de travail quotidiennes. Et ça part de là. Oui, mais ça part pour aller où ? Ça part pour un changement de société. On m'a dit assez souvent que j'étais plus sociétal que social. Il y a du vrai. J'étais au moins autant société, disons, quelle société voulons-nous, quel changement dans les rapports entre les personnes, mais aussi dans le monde international, dans l'entente internationale. Je suis allé un jour pour l'image, le symbole, aller voir successivement dans le même voyage les syndicats palestiniens, syriens, palestiniens, Istalout en Israël et égyptiens, pour dire la même chose. Vous, syndicalistes, élevez-vous un peu. C'est le syndicaliste qui doit montrer la voie d'un autre avenir.
Ça, voilà. C'est l'horizon international. C'est alors, à l'horizon national, fin des années 60, début des années 70, vous devenez secrétaire général en 1970. Il faut désigner, notamment à tous ceux qui ont été aspirés par le mouvement de mai 68, un objectif. C'est là que vous construisez sur cet horizon le mot « autogestion », qui rend un son étrange aujourd'hui.
Oui, l'autogestion, c'est un son étrange si on le prend comme si tout le monde pouvait gérer tout, ou n'importe quoi. Mais l'autogestion, c'est venu, en fait, au cœur de mai 68. Là, c'est un autre syndicaliste, Albert Détraz, qui a prononcé ce terme. L'autogestion, pour moi, c'est une aspiration à l'émancipation. Émancipation individuelle, mais pas individualisme. Émancipation collective en même temps. C'est donc le double mouvement individuel-collectif poussé par l'émancipation. C'est ça, c'est une aspiration d'autogestion. C'est pas une construction, c'est une aspiration.
Les jusqu'au boutistes qui préparaient la révolution et qui s'installent parfois comme des coucous dans le nid de la CFDT et se souciaient de ça comme d'une guigne, le Parti Socialiste, lui... Il préparait, l'une après l'autre, les échéances électorales pour gagner de l'influence. Et lui, il regardait l'autogestion comme la poule regarde un couteau.
Ah ben, si vous parlez de Mitterrand, tout
par
à
exemple.
Vrai. Moi, il fait déjà quelques années, avant 68, que dans ma fédération de la chimie, on parlait déjà d'autogestion. On avait convaincu pas grand monde dans l'échelle politique. Mais à la faveur de mai 68, alors que Malaise France n'était pas choqué par l'expression sans... Mitterrand, il a fallu attendre, je crois me rappeler, 6 semaines après la fin des événements, comme on dit, de mai 68 et des grèves, pour que, dans un passage, à un moment donné, sans en faire un grand discours, il a employé le terme autogestion en se disant « peut-être qu'il faut quand même que je m'en rapproche, ça servira à mon avenir ». Voilà, c'est assez significatif, tout simplement, de la distance, de fait, entre le mouvement politique de l'époque, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé, et l'aspiration du plus grand nombre.
C'est-à-dire que la distance, elle était sociale. Et vous, vous aspiriez à faire circuler dans la gauche, qu'on appelait encore non communiste, le sang du militantisme populaire.
Oui, absolument. Dans notre pays, les couches modestes, les salariés les plus modestes ont toujours été considérés comme une masse de gens qu'il faudrait faire voter dans le bon sens, mais jamais comme des moteurs, jamais comme participants aux délibérations et actions. Alors que le syndicalisme, dans son essence, et pas seulement la CFDT, dans son essence, il se construit comme ça, dans la lutte sociale dans les entreprises.
D'où l'intérêt que vous portiez à la CFDT pour un certain nombre de luttes emblèmes. Ainsi, 1972, celle à Saint-Brieuc, une municipalité de gauche, mais dirigée par un proviseur et avec des fonctionnaires, souvent dans la liste dominante, ainsi à Saint-Brieuc, le joint français. C'est des petits Bretons qui ne veulent pas être pris pour des andouilles et qui occupent pendant des semaines leur usine.
Les grévistes s'installaient pour toute la nuit en empêchant les trois dirigeants du joint français de quitter les lieux.
Il n'y a pas eu séquestration. Il y a eu des grévistes qui sont venus sur les lieux de la négociation et qui ont retenu les deux délégations toute la nuit et qui actuellement sont encore présents dans la rue parce que le combat continue et ils veulent obtenir satisfaction à leurs justes revendications.
Vous n'avez pas l'impression que faire cette semaine de grève, c'est peut-être une erreur?
Non, au contraire. Nos supérieurs nous prennent pour des petites bêtes. Qu'il faut courir, si on ne court pas assez vite, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas apte à rester dans une usine. C'est ce que je peux entendre, moi.
Pourquoi il n'y avait-il pas de conflit avant, au début, lorsque l'usine a été créée?
C'est bien difficile de toucher un patron quand on est un employé. Il n'y a pas de syndicat, ça n'existait pas.
Création de la section syndicale. C'est un motif de revendication essentiel à la CFDT dans les années d'après 68.
Oui, tout à fait. Et y compris en 68, dans les discussions, Eugène Descamps pour la CFDT a porté ça avec vigueur à Grenelle dans la négociation. Je veux dire que le joint français, ça évoque pour moi cette période assez extraordinaire qui a suivi mai 68. Plutôt à partir de 70, vous avez eu deux, trois ans de conflits très vifs, très profonds, avec parfois occupation. Parfois même séquestration, qu'on n'a jamais encouragé, mais ça existait aussi. Et ceci, c'était quoi? Justement, la liberté d'expression. Ce que nous voulions, nous, à l'époque, et on l'a fait progresser, il a fallu du temps, le droit d'expression dans l'entreprise. Et c'est pour ça, sans doute, que les conditions de travail, c'était le thème premier. Premier de l'action Saint-Gaz-Fedbrick. Et donc, on peut dire que c'est le premier grand succès concret de mai 68, je veux dire, d'avoir abouti à des changements dans les entreprises, avec du temps, puis avec des emblèmes comme nos amis du joint français, par exemple, pour montrer un peu qu'on pouvait s'en sortir.
Certains étaient hostiles, vous l'avez dit, certains étaient sceptiques. Je vous propose d'écouter une évocation un peu particulière de cette époque agitée où l'action et le vocabulaire évoluaient entre autogestion et séquestration par... Pardonnez, parce que vous êtes un homme sérieux, par Jean-Yann.
Le groupe Benoît Lepape représente une force colossale. Et ça à tous les niveaux. Social, économique, politique. Et cette force-là, justement, je vais la remettre entre vos mains. Alors je me retire et je vous laisse tout.
Ce que vous nous proposez, c'est l'autogestion, quoi.
Ben voilà.
Vous voulez qu'on dirige le groupe nous-mêmes? Et c'est ça que vous voulez dire?
C'est ça que je veux dire, puisque je me tire.
Eh oh, ça va pas, ça. Nous, on veut pas avoir une responsabilité pareille sur le dos.
Je suis très content de la façon dont se passent les choses actuellement. Si vous pouvez nous faire gagner un peu plus de sous, tant mieux.
Oui, puis alors. Hein? Oui, puis sorti de là, nous, on ne veut pas se filer dans les emmerdements. Je crois exprimer l'opinion générale.
Hein. Ah, oui, absolument.
Nous, l'autogestion, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est que vous restiez patron.
Bah, vous n'allez pas me séquestrer, non?
Bah, s'ils le font, on vous séquestrera. Alors, tant que vous n'accepterez pas, grève illimitée.
Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh. Chaque fois que tu veux de l'augmentation, chaque fois qu'on paie pas tes cotisations, chaque fois tu t'en vas parler au patron. Au patron, il ne t'entend pas, ne te comprend pas, il ne te voit pas, ne t'écoute pas. Mon pote ouvrier, le cœur d'ouvrier, je t'entends crier. Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton affreux patron. Chaque fois t'entends pas, te rends pour un pion. Pour un pion.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le témoin de ce vendredi, c'est Edmond Maire, patron, non, faut surtout pas dire ça, autrefois de la CFDT, à qui Jean-Michel Helvig, aux éditions du Seuil, consacre un livre vraiment passionnant. Alors, j'y lis, Edmond Maire, que vous n'êtes pas un homme de confidence, ça je m'en doutais, que vous êtes doué de truculence, néanmoins, ça je ne savais pas. Et alors, je vous vois sourire en écoutant cet extrait du film de Jean-Yann. Moi, il y en a vouloir des sous. Je savais pas que vous étiez un homme d'humour.
Oh, pas spontanément, non. Ah. On me dit plutôt que j'en manque un peu, il faut le dire. C'est vrai, quoi. L'humour de Jean-Yann, c'est l'humour du râleur, quoi. Hein. On peut vraiment pas dire le mouvement syndical soit d'abord un mouvement de râleur. C'est pas vrai. C'est d'origine, depuis toujours, le mouvement ouvrier français a toujours été pour la transformation des choses. Regardez, le grand homme du syndicalisme, pour moi, de toute la fin des années 1900, c'est Pelloutier. Et Pelloutier, lui, il a
fondateur des Bourses du Travail.
Dirigeait les Bourses du Travail. Et on faisait une œuvre d'éducation, de formation, avec cette expression que je citais il y a peu, mais qui est quand même formidable, disons aux militants, soyons les amants passionnés de la culture de soi-même.
Ça y est, vous avez retourné la situation, on est parti de Jean-Yann et on est revenu à la pédagogie, ce qui est quand même le fond de votre personnalité. Nous voilà maintenant dans les années 1980. Ah, vous êtes capable de grande joie, la joie de l'effondrement du système communiste.
Ah, il faut dire que cela, c'est résultat d'un combat. Enfin, si vous voulez, pendant des années, quand j'en parlais à André Bergeron, on se voyait de temps en temps.
Secrétaire général de FO.
Secrétaire général de FO qui, lui, à l'époque, disait, bon, pour exister, je fais des compromis avec le patronat, il faut bien exister. Et il me disait, toi, tu te feras bouffer par les communistes. La réalité n'a pas été celle-là.
Bah, quand même, quand vous posez la question à Henri Krasucki, autre alter ego, le chef de la CGT, et que vous lui dites, si tu étais au pouvoir, je serais le premier en tôle. Qu'est-ce qu'il vous répond ?
Eh bien, je n'ai pas noté de réponse. Je pense qu'il a été interloqué, en quelque sorte. Surpris, interloqué, et sans réaction immédiate.
Donc, vous étiez en train de dire, Edmond Maire, que c'est votre conception qui, au fond, l'avait emporté face au centralisme communiste.
Entendons-nous. Écoutez, tout ce que le mouvement anti-totalitaire, il y a beaucoup d'intellectuels et autres, mais nous, notre rôle de syndicat est dans les entreprises. Dans les entreprises, nous n'admettons pas que ce soit, en gros, très souvent, ce que j'ai connu, hein, pour mon premier travail, la cellule communiste, hein, qui donne la danse et qui fasse comme si ils étaient un syndicat. C'était pas du tout là pour ça. C'était que pour faire accéder leurs amis au pouvoir. C'est autre chose. Et donc, ce combat quotidien pour éradiquer la greffe bolchevique, c'est une expression de l'époque, sur le mouvement ouvrier français, c'est une action qui m'a pris des années.
Alors, on est dans la longue durée. Revenons à la brève séquence de bonheur qui est la vôtre en mai 81 avec l'élection de François Mitterrand. Ah bah, je peux pas dire que je ne suis pas heureux, mais ce sera court.
Oui, notre attente n'était pas une attente qu'on allait passer du noir au blanc, que ça va être extraordinaire. Nous souhaitions, et quand même un grand progrès, transformer dans les textes de loi, et ceci fut fait, l'aspiration à l'expression des salariés, à leur représentation dans l'entreprise, à la section syndicale d'entreprise, donc à la vie, à ce qui, dire, l'infrastructure qui permet aux syndicalistes d'exister, de se développer.
Les lois aux roues, on les voit à l'arrivée de la gauche au pouvoir.
Ah ben ça, certes, oui. Et je crois qu'on y a été pour une bonne part. Voilà.
Au bout d'un an, 82, plus encore début 83, l'aggravation de la conjoncture amène le gouvernement Mitterrand-Mauroy à changer de pied. Le 31 janvier 1983, le son que vous allez entendre, c'est un vrai coup de Jarnac. Hein. Vous vous entretenez longuement avec le président de la République et vous faites une déclaration sur le perron de l'Élysée qui va provoquer beaucoup de réactions.
Les inquiétudes qui sont les nôtres concernant le pouvoir d'achat, l'arrêt de la croissance, l'aggravation des difficultés de la sécurité sociale, nous m'ont amené à demander au président de la République que les priorités du gouvernement, et encore plus, si un deuxième plan de rigueur s'avère nécessaire, il ne faut pas se cacher les yeux, cette hypothèse doit maintenant être envisagée. Nous allons donc demander que les options gouvernementales soient fermes en faveur de ceux qui en ont le plus besoin, les chômeurs, les bas salaires, et qu'une réforme fiscale donne le sens de la lutte contre les inégalités. J'ai ajouté, dans une hypothèse d'un deuxième plan de rigueur, d'aggravation des difficultés économiques, la CFDT s'opposerait par avance à toute radicalisation politique, à toute tentation d'enfermer notre pays dans le protectionnisme.
Je ne sais pas si vous avez noté cette maladresse, là. Les circonstances nous m'ont amené. Nous, je... Qui parle, là? Est-ce que c'est le secrétaire général de la CFDT au nom de la Confédération? Est-ce que c'est un homme politique parmi d'autres qui prêche la rigueur? Oh là là, qu'est-ce que vous avez entendu à ce moment-là?
C'est à la fois le je et le nous. Le matin même de cette intervention du président de l'Élysée, il y avait une réunion de la commission exécutive, les 10 qui étaient, où j'ai dit ce que j'ai dit publiquement. Et donc, c'était à la fois le « je » et le « nous ». Parce que, bien évidemment, s'il y avait eu un désaccord, ça serait dit dès le matin. Ça pouvait se dire très librement. On n'est pas du tout sous la férule du secrétaire général à la CFDT, heureusement. Mais comme souvent, l'écho qu'elle a entraîné, l'extraordinaire montée en puissance des médias, a influencé, y compris à la CFDT, en disant bon, mais comment se fait-il qu'il a annoncé un deuxième plan de rigueur? Parce que le problème, c'est que moi, je suis tombé dans une trappe, là, dans un piège que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que François Mitterrand parlait en off absolu à toute une série de responsables, y compris les responsables des médias. N'en parlez surtout pas, il y a les élections municipales pas loin, etc. Ne parlez absolument pas de ça. Et moi, ne sachant vraiment pas cela, s'il y avait un plan de rigueur ou un deuxième plan de rigueur, c'est a été immédiatement, ils se sont libérés. Ah, c'était off, c'est plus off, ça y est.
Mais vous avez toujours un peu sous-estimé François Mitterrand, qui vous estimait davantage que vous ne l'estimiez.
Écoutez, je ne vais pas redire les raisons de la distance que j'ai avec François Mitterrand, mais enfin, François Mitterrand ne me semblait pas quand même de l'école... proche de l'école Mendesisme, comme volonté d'améliorer la citoyenneté, le civisme, la responsabilité. Bon, alors, je m'arrête là, tout simplement.
C'était pas un homme véridique.
Il y avait une différence. Ben oui, t'es un homme politique, si vous voulez. Le fait de se mettre d'accord avec les communistes en empruntant une bonne part des propositions communistes, mais bien sûr, avec la ferme volonté de ne jamais les appliquer, bon, c'est quelque chose qui est le moins qu'on puisse dire, hein, entraînait de ma part, mais de la part de la CFDT, d'ailleurs, tout à fait. Dire, bon, ce programme commun tel qu'il est, nous ne croyons pas à ce que l'arrivée au pouvoir de la gauche permettra de faire tout ça et sans coup férir très rapidement.
Je reviens en 83. Plutôt que de rigueur, vous auriez dû parler... Comment disaient vos camarades italiens ? Austérité qualitative. Une austérité justement partagée.
Je me rappelle avoir, en congrès de la CFDT, parlé de rigueur. En faveur de la rigueur. Qui profite de la non-rigueur et du laxisme ? Qui est victime ? Évidemment, les catégories les plus modestes. Donc, pour moi, le terme rigueur, au contraire, c'était une chose qui était normalement à l'honneur des responsables politiques ou syndicaux qui se référaient à la rigueur, y compris et d'abord pour eux-mêmes.
Comme l'innovation et la réflexion sur le futur, depuis longtemps vous disiez qu'il ne serait pas possible de garder notre industrie automobile telle qu'elle était, notre sidérurgie telle qu'elle était, à peu près au moment où vous allez quitter la CFDT, ou quitter le secrétariat général, je le rappelle, en 1988, cette émission « La marche du siècle » à la télévision était titré « Adieu à la classe ouvrière », avec dans le rôle de celui qui va disparaître, l'inégalable Marcel Donati, un ancien ouvrier lamineur à Usinor.
C'est une noblesse. Ouais. C'est le corps à corps entre l'ouvrier et le métal. Ce métal à 1200 degrés. Ce métal qu'on envoie dans une cage. D'abord cette cage qu'on monte nous-mêmes, qu'on règle nous-mêmes dans tous ses rouages. Ce coup de baramine pour envoyer une droite bien droite. La barre, elle flottait des fois, elle était prête à plier. C'était le combat. Toutes les minutes, on était en train de combattre avec le métal. Le métal arrivait à biaiser. Il arrive à nous rouler. Et ça, je dis que quand une barre, elle était bien laminée, le métal était bien bleu, moi j'aimais bien ce métal-là. On était fiers quand même, on avait réussi quelque chose. Qu'après, avec la modernisation, les hommes au sol, comme on dit, avaient disparu.
Ouais.
Tout le monde devient des petits techniciens. J'ai vu, mais je le dis, je l'ai vu, des chefs de fabrication partir à 50 ans, à 6000 ingénieurs, pratiquement analphabètes. Uniquement par la connaissance, uniquement par le doigté, uniquement par l'œil, uniquement par l'oreille. Ouais. Mais c'est vraiment du vertical, hein, c'est le mat de cocagne. Hein. Parce que ce qui se passe de chaque côté, on n'avait pas le droit de le savoir. Quand on voulait comprendre quelque chose, il ne fallait pas. Mais tout d'un coup, il fallait tout savoir. Il fallait être des techniciens.
L'auteur de Cœur d'acier, qu'on peut toujours lire, un livre de 94, Marcel Donati.
Oui, c'est... En l'écoutant, je ne me rappelais pas, je ne crois pas avoir entendu cette magnifique éloge, enfin, mise en lumière de ce que c'est qu'un travail ouvrier. Pour moi, ça m'évoque aussi les mineurs. La fierté des mineurs, comme la fierté des sidérurgistes, notamment ceux qui étaient au four, dans les conditions les pires. Pour dire aussi la fierté des ouvriers de Michelin qui étaient au noir de carbone, c'est pareil. Cette fierté-là, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui a porté le mouvement ouvrier. Ensuite, vous dites, ou il dit d'ailleurs lui-même, qu'il y a une évolution vers les techniciens. Bon, je suis technicien, oui, enfin, si on veut, quoi, hein, sans avoir fait beaucoup d'études, mais pas à l'époque, hein. Bon, technicien, chimiste, j'ai aussi dit, même écrit là-dessus, qu'il y avait, fort heureusement, dans les cadres, une source de syndicalisme, une relève du syndicalisme. La difficulté, il faut bien le dire, c'est que aujourd'hui, l'équivalent serait qu'il y ait une source de syndicalisme chez des professions aussi importantes que les aides à domicile, les aides maternelles, les caissières de grands magasins, c'est-à-dire les personnes de service, comme on dit aujourd'hui, dominées, vraiment dominées, avec de mauvaises conditions de travail, avec des rémunérations très basses. Or là, on ne sent pas cette nouvelle source de syndicalisme et de volonté de changer les choses. Alors, je sais qu'il y en a qui s'en occupent, il y a des syndicalistes qui s'en occupent dans leur proximité, c'est pas encore apparu nationalement. Espérons beaucoup que cela viendra.
C'est bien de citer les femmes, ça a été un des grands combats de la CFDT de votre époque.
Ah, et Janet Lahaute, hein, une grande militante qui a fait la fierté de la CFDT.
Dites-moi
son engagement.
Puisque vous citez Janet Lahaute.
Il y a eu des voix syndicales, heureusement, il y a quelques-uns qui ont trouvé leur place en politique.
De toute façon, la fonction politique n'est pas plus noble que la syndicale. C'est une des leçons du remarquable livre que Jean-Michel Helvig vous consacre. Le titre du livre, c'est pas Edmond Maire, c'est Edmond Maire, une histoire de la CFDT, parce que vous n'étiez pas seul. Et le livre, il est publié aux éditions du Seuil. Alors nous n'étions pas seuls non plus, tous les deux ici. Je salue Madame Maire qui a assisté à l'émission. Elisabeth Collet à la technique, Jacques Sigal, Frédéric Martin, Elinka Negulesco et Franck Olivard pour la préparation. Autour de Madame Maire se retrouveront les proches d'Edmond Maire cette semaine dans sa bonne ville d'Épinay-sur-Seine avant qu'un hommage ne lui soit rendu un peu plus tard par la CFDT. Au programme, Mathieu Vidard, il est déjà 14h.
La médecine humanitaire dans un instant.
Dans la tête au carré.